Oui, moi, alors, je veux dire quand même que je regrette que ça ne soit pas Bernard Letté qui aurait pu remplacer très bien, mieux, comme spécialiste de psychologie cognitive sur ces questions-là, Michel Fayolle. Il est dans le même labo et fait partie de notre maison, donc ça aurait été double raison de l'inviter, mais on a su trop tard que Michel ne pouvait pas venir, et donc Bernard Letté était pris. Donc moi, je ne suis pas une psychologue cognitiviste, ça voit tout de suite, je n'ai pas de PowerPoint. Hein, donc ça c'est un critère absolu. J'ai bien demandé à Michel Fayolle de m'envoyer le sien, il m'a dit oui je vais le faire, et puis il a oublié, il n'a pas eu le temps, mais il m'a dit tu peux tirer sur le site de l'ONL pour donner aux participants la conférence qu'il avait fait, l'écrit qu'il avait donné pour résumer en gros. Donc on l'a fait tirer parce que je pense que c'est bien de lire dans les bus, c'est pas seulement en ligne, je veux dire informatique. Donc vous pourrez prendre le résumé en partant. Vous verrez que à la page 64, si j'ai bonne mémoire, il y a une erreur sur les terminaisons en haut dont parlait Annie Ménian tout à l'heure, puisque on dit que les terminaisons en E, A, U sont très rares après R, ce qui est faux, justement, c'est après F. Donc ça vous obligera à aller fouiller jusque-là. Donc il reprend en démarrage de ce papier un certain nombre de choses qu'on va pouvoir économiser puisque vous les avez dans votre mémoire de travail et les ayant entendues il n'y a pas longtemps. Et on va venir tout de suite donc, sur deux points où je vais essayer comme lectrice de Michel Fayolle, mais aussi d'autres psychologues cognitivistes que je fréquente assidûment depuis 25 ans, je peux dire, sur ce qui, moi, comme plutôt spécialiste de l'histoire de la scolarisation de la lecture et de l'écriture, c'est-à-dire très lisant en permanence des méthodes de lecture qui sont aussi bien du XVIIe que du XIXe que du XXe siècle, que de celles qui vont sortir, je me pose en permanence la question dans les outils de travail qu'on fournit aux enseignants ou que des pédagogues ont inventés ou que des pédagogues récemment alliés à des savants croco-livre avec Jean-Émile Gombert ont inventé, quels sont les présupposés implicites et les discours explicites qui légitiment l'usage de tel ou tel mot ou de telle ou telle progression. Et pour les périodes passées où on n'a rien que l'outil, je me pose la question, comment est-ce qu'on pouvait bien apprendre à lire à des enfants avec ça, puisque je pense qu'on a appris à lire avec des enfants avec ça et qu'on ne peut pas dire que les enfants ont seulement appris contre les méthodes, comme on dit quelquefois, par mesure de boutade. Et il faut arriver à comprendre ça pour les psautiers du XVIIe siècle, où vous avez l'alphabet et puis après les prières, pour les méthodes du XVIIIe, où vous avez la liste de tous les phonèmes et de toutes leurs transcriptions possibles avant de commencer à avoir les premiers textes, pour les méthodes Jules Ferry avec l'apparition qui devient majoritaire de la présentation que nous a fait Karine tout à l'heure des méthodes dites syllabiques, et pour les premières apparitions des méthodes dites globales, alors en Europe dans les années 1920, aux États-Unis beaucoup plus tôt, dès la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vers les années 1887-88. La première date, c'était ces années-là, et il y a un discours théorique très fort, puisqu'ils ont déjà inventé les UFM, ou quasiment à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des instituts de formation des maîtres où il y a des psychologues qui ne sont pas cognitivistes à l'époque, ça ne s'appelle pas comme ça, mais quelque chose qui, en tout cas, expérimentaliste, qui voudrait être expérimentaliste. Voilà. Moi, ça, c'est mon travail. Et puis, par ailleurs, j'ai été... Je me sens encore prof d'IUFM, donc je me trouve confrontée au même problème que Karine dans la question d'interface et de transmission de formation. Mais j'ai rencontré Michel Fayolle pour travailler avec lui, en particulier dans les modules de formation d'IDEN il y a longtemps, et bien que n'étant pas du tout de formation cognitiviste, et venant d'un monde qui est plutôt méfiant, par rapport à la manière dont les cognitivistes dissèquent les choses en mini-unités qui, d'une certaine manière, dans la vie de la classe, n'existent pas. Et on se dit toujours, mais enfin, ce saucissonnage, qu'est-ce qui va nous apprendre au bout du compte ? Je me suis dit, il faut aller voir ce que font les saucissonneurs, Parce que, d'abord, ils sont très importants dans l'espace social. Ils ont l'écoute des ministres, pas seulement Robien, mais déjà avant. Ils sont très importants au niveau international. Et puis, il y a des enjeux, de toute façon, de comprendre le processus d'apprentissage de la lecture de manière pas simplement globale, ou mais très fine, qui peut avoir ou aura ou a déjà des retombées extraordinairement fortes. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un savoir empirique énorme d'instituteurs. Vous savez, ceux qu'on appelle des experts, vous avez tous connu une instite, les parents se battaient pour mettre les gosses dans sa classe en cours préparatoire. J'ai fait beaucoup d'interviews d'instituteurs, et c'est toujours un savoir empirique, intuitif, conforté par des années de travail, et qui se disent dans des mots ordinaires, et simplement, ça ne peut pas avoir de validité transmissive, parce qu'on ne sait jamais si le génie de la procédure de Madame Untiel, parce qu'elle dit toujours que c'est la procédure, tient à elle, tient au fait que les enfants sont motivés et enthousiastes, comme elle vous dit toujours, mais ça, on peut motiver et rendre enthousiastes les enfants surtout, ou tient à des modes de fonctionnement techniques dont on pourrait avoir des validations, des explicitations, et finalement des modes d'approche légitimés et transmissibles grâce aux travaux des psychologues cognitivistes. Donc je me situe de ce côté-là comme étant avide des savoirs qui se constituent, même si je pense, et je suis très reconnaissante à Annie Ménian et Jean Hicard de l'avoir bien dit, il n'y a pas de psychologie, enfin il n'y a pas de relation directe, il n'y a pas d'applicationnisme, et il faut au contraire se méfier d'une voie directe qui irait du labo à la classe, parce que justement dans la classe, même si tous ces petits éléments sont minuscules, sont requis, c'est pas dans une approche de découpage de type expérimental, même s'il y a des découpages, qui peuvent fonctionner de manière intégrative et féconde pour les enfants. Voilà, ça c'était mon... En gros, si vous voulez, la différence entre les cognitivistes et moi, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai découvert dans un séminaire de formation la procédure de l'instruction au sosie. C'est un séminaire sur l'ergonomie des environnements de travail. Et Yves Clos présentait cette procédure qui est pour faire verbaliser à quelqu'un comment il se représente et verbalise les tâches de son travail. On lui dit, on le met dans une situation de sublimation, vous allez donner des instructions à un novice qui doit vous remplacer demain pour lui dire tout ce qu'il doit faire pour que personne ne se rende compte que ça a changé. Alors, il n'y a pas de doute, vous vous rendrez compte que ce n'est pas Michel Fayol. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai essayé de faire ça, en sachant que j'y arriverais pas. Je me suis quand même rendu compte, quand j'ai entendu cette situation au sosie, je me suis dit, c'est incroyable, j'ai joué au sosie des années durant avec mes normaliens, on appelait ça le jeu du remplaçant, où je leur disais, je les mettais en deux devant groupe, où je disais à l'un d'interroger l'autre, puis à l'autre de donner les informations que le premier lui avait pas demandé. Parce que ça permettait de, vous voyez, de mettre l'accent sur les choses importantes, pas importantes, le récit, l'intégration de données extraordinairement hétérogènes. Je m'en servais comme d'une situation de formation qui marchait très bien. Mais j'en ai jamais fait des articles. J'aurais pas pensé qu'on pouvait en faire une procédure d'analyse procédurale scientificisée avec, alors, beaucoup d'exemples, des analyses systématiques, des contrôles de variables, tout ce qu'ils peuvent faire eux parce qu'ils sont payés pour ça et qu'ils ont le temps, et que nous, dans notre... ils ont le temps, c'est leur boulot de faire ça. Alors que nous, dans l'étage de formation et dans la classe, finalement, on procède beaucoup en court-circuit, sans avoir le temps de comprendre pourquoi fonctionnent les choses qui fonctionnent, alors qu'on est très inquiet des choses qui ne fonctionnent pas. Et je pense que c'est un des lieux sur lesquels la psychologie connective nous apporte, c'est de savoir pourquoi marchent les choses qui marchent. Et alors que quand ça marche dans une classe, finalement, on oublie, puisque c'est normal. Et on s'intéresse que là où ça coince. Mais souvent, on ne peut décoincer que si on sait comment marche ce qui marche. Alors, les recommandations de Michel Fayol pour cette intervention, c'est de dire, laisse tomber tout ce qui concerne le code et l'apprentissage, ils auront dit tout ça, je laisse tomber. Et de tenir donc deux points sur apprentissage d'orthographe lexicale et apprentissage de l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire en gros comment dans une langue comme le français apprendre à récupérer en mémoire des mots qu'on sait écrire pour se les autodicter au moment où on écrit, puisque c'est ça finalement écrire sans, de manière normalisée, il faut récupérer des mots d'une orthographe qui est épouvantable, un peu moins pire que l'anglais, mais pas loin, et en tout cas bien pire que l'italien, l'espagnol, l'allemand, tout ce qu'on pourra imaginer, le finlandais, n'en parlons pas, l'hébreu, l'arabe, j'en passe, des meilleurs, dans l'ordre des langues alphabétiques. Et puis deuxièmement, le problème qui est posé de manière très forte aujourd'hui avec la sortie du livre de Daniel Manès et Daniel Cogis sur à qui la faute, je ne sais plus comment il s'appelle là, et qui est que la baisse du niveau orthographique qui aujourd'hui serait de 2 ans, on peut dire comme ça, par rapport aux enquêtes faites sur le même matériel en 1985, les enfants accusent aujourd'hui sur l'orthographe grammaticale un retard de 2 ans. En gros, en cinquième, ils sont au niveau où ils étaient en CM2 à l'époque, mais sur un problème très particulier qui est les accords. En gros, pour dire le problème des accords. Et alors là, on ne compare pas à l'anglais. Le français est la seule langue à ma connaissance. Vous me démentirez. Je suis contente qu'il soit là pour qu'il rectifie toutes mes bêtises au fur et à mesure. Où on a des finales complètement inaudibles, alors qu'elles sont audibles en anglais, en italien, en espagnol, les S, les pluriels. C'est-à-dire qu'on apprend les règles grammaticales qui vont devoir être écrites au moment où on apprend à parler, alors qu'en français, non. On ne les apprend pas. On apprend les petites poules rousses courent dans la cour. Bon, on apprend les. Mais petites S, poules S, rousses S, courent. ENT dans la cour, non, c'est autre chose. Eh bien oui, voilà. Ça, c'est un apprentissage spécifique de l'écrit dont vous sentez à quel point il va exiger de l'attention pour revenir, de l'énergie, pour reprendre le terme de Karine, attentionnel, mémoriel, en plus de généralisation du point de vue des règles. Et donc, c'est sur ces deux choses-là que les cognitivistes ont des petites choses à nous dire. Alors, sur orthographe lexicale, le principe alphabétique... Information de formatrice, je me suis rendu compte en lisant la littérature que le terme principe alphabétique est employé tantôt dans un sens faible, tantôt dans un sens fort. Les psychologues cognitivistes l'emploient toujours dans un sens fort, qui est d'avoir bien, de maîtriser le principe alphabétique. Par moment, une petite demande, c'est comprendre le principe alphabétique, maîtriser le principe alphabétique, c'est pas la même chose. Ça veut dire que dans le sens faible, souvent, vous le trouverez dans des textes, y compris des textes d'instruction officielle, ou de documents d'accompagnement, on dit un enfant comprend le principe alphabétique quand il comprend que l'écrit code des sons. Voilà. En particulier, ça commence avec le prénom, Zoé, bon, voilà, le E de Zoé, le Z de Zoé, même, on peut dire le Zo de Zoé, bon. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'un enfant a compris que l'écrit code des sons, qu'il a compris, premièrement, que tous les sons de la langue seront codés. Parce qu'en fait, c'est ça, la difficulté. C'est-à-dire qu'il peut très bien penser pendant un certain temps qu'il y a des tas de petits bidules qui se baladent dans la lecture, dans les écrits, qui sont relèvent pas. Et effectivement, il a raison, il y a des points, il y a des points d'exclamation, il y a des points de suspension, il y a des virgules, il y a des guillemets, qui ne sont pas de l'ordre du son. Donc, il va y avoir tout un problème d'apprentissage qui est de savoir qu'est-ce qui relève de ce qui doit se trouver dans la transcription écrite de la chaîne sonore. Et par exemple, d'autres choses qui est que les mots sont séparés par des blancs alors qu'à l'oral, ils ne le sont pas. Et tous ces apprentissages-là font partie. Alors là, j'écoutais Jean Eckhall tout à l'heure avec intérêt, parce qu'on voit bien comment, dans l'environnement et dans des apprentissages, il disait sur la lettre, on apprend dans les abécédaires. En revanche, ce qu'on apprend dans la lecture de l'album en côte à côte, c'est beaucoup de choses du côté des dispositions graphiques, de la mise en page, de la séparation des mots en blanc. On reviendra peut-être là-dessus dans la discussion. Et je me rends compte que les pédagogues emploient plus volontiers principe alphabétique dans un sens faible que dans le sens fort des cognitivistes, d'où un certain nombre de malentendus, en particulier lorsqu'on est autour de dire que l'acquisition du principe alphabétique est faite en maternelle. Je l'ai vu beaucoup de fois, peut-être même que je l'ai écrit, parce que pour moi, appartenant plutôt à ce monde-là, je l'entendais dans ce sens faible, et je suis contente que mon remplacement m'ait obligée à faire le travail de repérage systématique et de percevoir que jamais les cognitivistes que j'ai lus ces derniers jours, les bons, eux, ne l'emploient dans ce sens-là. Vous me confirmez ?
Oui, c'est ça.
Bon. Alors, deuxième chose, sur la question du système des correspondances, je veux dire que selon les langues, Michel Fayot insiste beaucoup sur le fait, mais vous aussi, le problème est l'asymétrie du graphophonique au phonographique. C'est-à-dire que la consistance, bien sûr, il y a des lettres, quand on lit, on voit des lettres, il faut les faire chanter pour retrouver les mots connus dans la langue orale, parce qu'on est quand même une certaine avance en langue orale par rapport à langue écrite. Petite parenthèse, il faudra un jour que des cognitivistes répondent à mes questions sur le fait que beaucoup d'enfants apprennent une langue en apprenant à la lire. Que ça a été toute la tradition occidentale où on apprenait le latin, on apprenait à la fois à lire, écrire et parler en apprenant le latin alors qu'on était dans d'autres langues. Et du coup, les procédures de méthodologie d'apprentissage sont pas les mêmes. C'est toujours ce qui vaut aujourd'hui quand on apprend le Kodesh en hébreu, quand on apprend les écoles coraniques. Enfin, il y a toute une série. Et puis, des minorités linguistiques qui apprennent la langue en allant à l'école, en même temps qu'ils apprennent la langue de lecture et d'écriture. Alors, ça, c'est un héritage de notre société. Nous vivons dans un pays monolingue institutionnel, même s'il ne l'est pas en pratique, mais avec une grande langue instituée, et l'idée que les patois ont disparu entre deux guerres, pour aller vite, a légitimé beaucoup de linguistes, et je dirais que là-dessus les psychologues se sont d'une certaine façon appuyés sur eux, mais ils ont repéré d'autres choses, c'est à penser que la langue orale était d'une certaine manière disponible au moment de l'apprentissage de la langue écrite, et qu'elle était en bonne disponibilité, d'où ces questions sur apprentissage de vocabulaire, etc. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe dans les situations où c'est pas comme ça qu'on apprend à lire. Voilà, qui est un problème théorique fondamental. Mais dans le système graphique du français, le graphophonique est plus facile, plus consistant, moins troublant, même si effectivement, quand on voit un A, on ne sait pas sûr qui va faire A, qui va faire en, qui va faire E, ou qui va même faire O, ou, hein, dans le mois d'août, pourquoi pas. Alors que, pour la question d'apprentissage lexical, on est... Donc, j'entends un mot, je veux l'écrire, je le connais dans ma tête, je l'ai déjà vu, mais j'ai pas mémorisé complètement comment il s'écrit. Et là, les risques d'éclatement des possibilités sont infiniment plus grands. C'est-à-dire que dès que je suis en codage de finale, donc on va voir le problème de il mangeait AIT, AIES, AIENT, bon en plus on va toucher à des problèmes mais aussi à accent grave, EI pour le E, enfin tous les AI, tous les codages possibles du E sont pour les étrangers qui apprennent la langue des casse-têtes. Alors que d'autres choses très compliquées, très difficiles et très arbitraires, du genre par exemple, est-ce qu'un mot est masculin ou féminin, ne posent pas de problème à des enfants francophones, alors que vous savez, ça pose en permanence des problèmes à des gens qui apprennent le français, parce que pourquoi une chaise et un tabouret et pas le contraire, c'est comme ça, hein, faut l'apprendre. Mais les enfants font pas des fautes là-dessus. Mais sur le pluriel, là, ils vont en faire. Je remercie aussi Annie Maignan d'avoir bien rappelé quelque chose que beaucoup d'instituteurs savent, mais qui a été un interdit, alors je dirais a été très déstabilisée par les études de linguistes sur la question de la nomination des lettres. Et les enquêtes qui sortent, Rebecca Treman et aussi Emilia Ferrero avant, sur le fait que les enfants connaissent les lettres et que la connaissance du nom des lettres est, n'est, une lettre est une abstraction comme un phonème, puisqu'on doit reconnaître une lettre sur capitale, cursive, bien écrite, mal écrite, bas de casse, etc. Mais que, elle a, on peut, je dirais, faire des étiquettes et les manipuler, ce qui est beaucoup pas le cas pour les phonèmes. Et que du coup, avoir stabilisé pour les enfants, ce qui est relativement facile et précoce, la désignation du nom des lettres va aider à mettre le système de correspondance, a été d'une certaine manière bloqué à un moment donné du fait de l'interdit que les linguistes avaient jeté sur la désignation sur le phonème, c'est le phonème, faut dire b. Ce qui est impossible, presque impossible, pas tout à fait impossible, enfin discutons, bon, peu importe. Mais en tout cas, on se trouve dans une situation où la production d'écrit se trouve infiniment plus coûteuse que la lecture, et que même un enfant bon lecteur peut se trouver un enfant en grande difficulté de production d'orthographe lexicale. Alors, apprentissage implicite, explicite, on n'y reviendra pas. C'est sûr que toutes les choses, d'une certaine manière, ont été dites. La grande incertitude sur l'explication, c'est est-ce que l'apprentissage de la lecture du fait du décodage permet le maintien en mémoire du mot entier et donc la visualisation, l'intégration en mémoire du mot, de ce mot. Est-ce que le fait d'écrire éléphant, de décoder éléphant, permet au bout du compte de mémoriser éléphant et pas de mémoriser et puis je éléphant. Quand je suis arrivée au bout, j'ai reconnu le mot à l'oral, mais j'ai pas tenu en mémoire l'écriture totale du mot. Ou est-ce qu'au contraire, elle le permet ? Manifestement, pour certains enfants, elle le permet, pas pour d'autres. Et là-dessus, d'après ce que m'a dit Michel Fayolle, on manque d'éléments d'information pour comprendre ce qui peut faire que des enfants sont en auto-apprentissage très efficace et d'autres qui paraissent disposer des mêmes compétences cognitives, a priori, ne le sont pas. Et il faudrait peut-être essayer d'avancer par eux. Et on sent bien que l'apprentissage mot par mot, d'une certaine manière, va être, comme disait Karine, très coûteux, parce qu'on ne peut pas apprendre tous les mots un par un, ni par visage, ni par épellation, ça revient au même. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des transferts. Alors, là-dessus, c'est pas là-dessus que je vais vous raconter les expérimentations, je vais vous raconter une expérimentation qui me paraît importante, parce que c'est la chose que, comme usager de la littérature cognitiviste, me manquait le plus, c'est des descriptifs de situations expérimentales, pour comprendre que font des expérimentateurs quand ils se servent de situations de classe, pas de situations de labo, pour essayer de penser des contrôles d'efficacité ou d'inefficacité d'apprentissage. Alors, j'ai choisi de vous présenter quelque chose qui est dans le... qui a été... exposé dans le Revue française de pédagogie numéro 126-99 sur l'acquisition des règles d'accord qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'on on apprend par apprentissage implicite-explicite. C'est une expérimentation mise en place avec Michel Fayolle et puis aussi Jean-Pierre Jarousse, Marie-Geneviève Thévenin, je pense que c'est elle qui faisait le dispositif expérimental, et Corinne Totreau. Alors j'ai réinterviewé, moi j'ai besoin de récits, pas simplement d'exposés théoriques, structuraux, pour comprendre. Alors, le but était de tester si, dès le CP, un apprentissage explicite des règles de l'orthographe, d'accord, alors deux types d'accord, non adjectif, non verbe. C'est-à-dire le S et le NT pour aller vite, on laisse tomber pour le moment la question des X et des accords ailleurs qu'au présent, troisième personne du pluriel. Cet apprentissage direct est efficace. La question étant que depuis longtemps, les maîtres se sont rendus compte qu'il y a des enfants qui apprennent très bien à faire les exercices du bled, en gros, pour dire vite, mais que quand ils sont en production d'écrit, apparemment, le transfert, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors, là, la question était d'essayer de tester d'abord un âge d'apprentissage et de revenir sur un test post-test dans des conditions contrôlées pour pas qu'on dise il y a des maîtres qui savent, il y a des maîtres qui savent pas, oui, mais c'est bon. Et puis, je présenterai après une deuxième expérimentation qui est pas de psychologue cognitiviste, mais... je ne sais pas si vous ne considérez pas Laurence Riben comme une psychologue cognitiviste. Si, non? Si? Bon. Mais elle est plus dans une perspective qui est développementale, je dirais, elle est genevoise, et qui est de tester au contraire deux dispositifs. Un dispositif d'apprentissage où on sépare l'enseignement explicite des règles de l'orthographe d'un apprentissage intégré, c'est-à-dire où on le fait en le montant dans de la production d'écrit. Mais explicitement, mais à l'occasion d'une tâche de production d'écrit et pas en séparant la dictée de la rédaction. Je vous caricature, mais c'est à peu près ça. D'accord ? Alors, la tâche, le montage de Michel Fayolle. En gros, c'est ce qu'on appelait dans la tradition pédagogique un enseignement par principe, alors que l'enseignement implicite existe tout à fait dans la tradition pédagogique qui s'appelle l'apprentissage par routine. À force de faire, on comprend comment ça marche. Avec les risques de l'un et de l'autre, avec évidemment de la routine plutôt pour les moins de 6 ans et du par principe pour les plus de 8 ans. Et puis il y a un problème entre deux, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la disposition expérimentale, c'est 6 écoles, c'est 3 fois 6 CP. 3 fois 6 classes, 6 classes de CP, 6 classes de CE1, 6 classes de CE2. Donc, ce n'est pas 18 écoles, il y a des lieux où il y a plusieurs classes dans la même école. L'âge des maîtres, que j'ai fait préciser, c'est 50 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans une situation de ne pas devoir gérer des effets maître débutant, maître confirmé, mais c'est tout. C'est pas négligeable dans le dispositif expérimental. On est quand même sur un petit échantillon. Hein. On n'est pas sur. Ça fait beaucoup d'enfants, ça fait beaucoup de variables à gérer, mais c'est quand même que à chaque fois on a un nombre de. Alors dans ces 6 CP, ces 6 CE, ces 6 1, ces 6 CE2, 3 dispositifs. Donc 2 classes par dispositif. Dans une classe, on fait rien. Vous faites comme d'habitude. Il y a des textes officiels, vous les hein, il y a de l'apprentissage de l'orthographe qui est prévu au programme, vous faites comme d'habitude. C'est la classe contrôle. Alors, Michel Fayolle m'a dit, dans toute rigueur scientifique, on aurait dû introduire un petit dispositif sur apprendre du lexique, par exemple, puisqu'on sait que dans une classe, quand on introduit un nouveau dispositif, d'une certaine manière, quel qu'il soit, ça produit toujours un effet de surinvestissement qui fait monter les résultats, même si faire du trampoline pour apprendre à faire de la lecture, par exemple. Enfin, c'est pas Michel Fayolle qui a dit ça. C'est un exemple que je vous donne qui vient de moi. Peut-être qu'il le récuserait. Bon. Là, ça a été fait comme ça. Deux autres CP, deux autres CE, deux autres CE1, CE2, on met en place un apprentissage explicite sur des petits carnets avec des fiches pour le maître et puis des petits carnets pour les élèves où on va leur apprendre avec une progression qui va durer un mois avec 3 séances par semaine l'apprentissage accord non verbe, accord non adjectif, c'est-à-dire qu'en fait on leur fait compléter la factrique et puis il manque un point, il faut mettre la terminale distribue U, et puis il y a un point, il faut mettre ce qui reste, des lettres, et puis un point, il faut mettre ce qui manque. Ça, c'était l'exercice de point de départ. Les enfants ont des tests de closure, en quelque sorte, hein, complétés en mettant la bonne lettre qui manque au bout, et on va s'intéresser simplement à voir est-ce qu'ils mettent les marques du pluriel, les marques du pluriel, les ENT, pas les ENT, les S, pas les S. Voilà. Mais dans un cas, le maître ramasse les carnets, les corrige chez lui après la classe et puis il rend les corrections aux enfants, puis c'est tout. Dans un autre cas, il va y avoir une correction immédiate où on va faire revenir les enfants sur leurs erreurs et on va leur refaire reverbaliser la règle qu'on leur a appris immédiatement après l'exercice, c'est-à-dire ce qu'il appelle les classes avec feedback. Moi, je te trouve le dispositif expérimental très intéressant parce que il permet d'évoquer de manière très contrôlée des situations qui sont des situations qu'on connaît bien en classe et donc sur lesquelles, même si on fait pas comme ça tout le temps, parce que là, il faut suivre le protocole très précisément, il n'empêche qu'on a des modalités de travail qui renvoient à de la tradition pédagogique. Et au bout d'un mois, on reteste tout le monde et on essaye de voir qu'est-ce que a produit l'enseignement classique dans un point, avec sans feedback dans un autre point, avec feedback dans un troisième, et pour les CP, pour les CE1, pour les CE2, c'est-à-dire sur 3 années. Alors, résultat des courses, tout le monde progresse, même dans les classes où il n'y a rien. Mais, petit point extrêmement important, et ça, c'est, je dirais, contre-intuitif, et c'est là où je dirais où c'est très... c'est que, alors que dans les classes de contrôle et dans la classe de CP, dans des classes de CP avec ou sans feedback, le résultat de la fin est très proche, est très corrélé, on pourrait dire, à rapport très fort au résultat de départ. Dans les autres classes, non. C'est-à-dire que là, les effets d'apprentissage produisent une rupture. Par exemple, ceux qui étaient bons au point de départ et ceux qui étaient très faibles ont complètement changé d'écran. En particulier, ce qu'ils disent, c'est que des gens qui n'avaient pas de bons résultats au point de départ, se sont rapprochés des très bons. C'est-à-dire que et ça n'a pas de rapport, c'est le deuxième contrôle, avec l'origine sociale des enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet des variables socioculturelles, pour dire vite, d'après ce qu'ils ont pu contrôler, tout en disant, on ne peut pas en dire trop, parce que l'échantillon est petit quand même. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même un effet enseignement scolaire, et pas du tout un effet enseignement scolaire appuyé sur un pré-enseignement. Alors, après, il faudrait savoir pourquoi les enfants étaient très différents au point de départ, et qu'il le reste quand même un peu à la fin. Le point qui est quand même, qu'il pose question, et qui est très intéressant, c'est que le feedback ne joue un rôle discriminant qu'à partir du CE1. Alors, moi, j'ai retrouvé des choses que des maîtres de CP m'avaient dit 10 fois, enfin, pas tous les maîtres de CP, ceux avec qui que je considérais comme des experts, c'est à cet âge-là, c'est pas nécessaire, ils sont trop petits, ça sert à rien. C'est au moment où ils écrivent qu'il faut que... Après, bon... c'était pas la peine de corriger faut corriger les cahiers, hein, parce que les parents, autrement, ils te considèrent comme tu fais pas ton boulot, mais tu sais que pour les gosses, c'est trop tard. Et simplement, je le savais comme un avis de gens qui sont des professionnels, mais qui a la valeur d'un avis de professionnel, qui est comme avoir un toubib, et un toubib vous dira autre chose à un autre moment, et que du coup, il n'y avait aucune validation qui fasse que j'osais dire ça, par exemple, en formation. Quand les PE2 me posaient la question de comment il faut faire les corrections des cahiers, alors je disais pour les CM, parce que ça, je savais comment, que l'explicite, j'avais aucun doute, même si ce n'était pas très documenté scientifiquement, sur la nécessité de l'explicitation dans l'après-coup immédiat et pas de corriger une semaine après. Mais pour les petits, j'avais cet avis de beaucoup d'enseignants. Et je le donnais comme une précaution, et pas du tout comme des chercheurs ont trouvé que... Alors, attention, ils l'ont trouvé dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que c'est vrai tout le temps, toujours? On n'en sait rien. C'est dans ce cas-là où les risques de voie directe posent problème. En revanche, toutes les fois que des résultats contrôlés, expérimentaux, renvoient à des vulgates extraordinairement documentées, du point de vue de l'histoire de la pédagogie, je trouve qu'on est dans des configurations intéressantes du point de vue de la précaution. Et là-dessus, Michel Fayolle n'a pas oublié qu'il a été quand même 12 ans instituteur, si je me rappelle bien, pas en CP, sauf en CP, mais toutes les autres classes. Et je dirais que dans son processus expérimental, ça se sent très fort, les modalités de choix qu'il a pu faire. Alors, les résultats finaux, donc que je résume, pas d'effet des données socioculturelles, un effet d'instruction très fort aux trois niveaux, mais le feedback est efficace seulement en CE1. Ah oui, il n'est pas efficace non plus en CE2 dans le dispositif expérimental, parce que les exercices sont devenus trop faciles. Si bien que d'une certaine manière, feedback ou pas feedback, on sature les résultats. Mais ce qui est inespéré. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent à un résultat presque saturé après simplement un mois d'apprentissage. Dernier point, il reste tout de même des écarts entre les enfants qu'on ne sait pas à quoi rattacher. Et que c'est un des points qui fait la différence quand même, marque très très fort les problèmes d'apprentissage de l'écriture orthographique du français, c'est l'extraordinaire hétérogénéité des résultats des enfants, alors que même ils ont des compétences en lecture qui font que quand on prend les très bons lecteurs ou les bons lecteurs, vous ne pouvez pas prédire de leurs compétences en lecture leur capacité orthographique, et ça paraît quand même un peu mystérieux, si vous voulez, pour le moment, ou désespérant. Ça dépend de si on est du côté de l'intérêt scientifique, c'est mystérieux. Si on est du côté de la responsabilité pédagogique, on est désespéré. Voilà. Petite comparaison avec enseignement intégré ou enseignement spécifique, et l'enquête de Laurence Ruben, qui est dans le même numéro de la Revue française de pédagogie, que vous trouverez aussi, où ils ont comparé. Alors, le point de départ, c'est un souci aussi pédagogique, qui est de dire, si on enseigne la dictée d'un côté, les règles de grammaire d'un côté, et puis l'orthographe des mots d'un côté, et puis on fait les rédactions de l'autre, d'une certaine manière, on est très efficace d'un côté, comme Michel Fayolle le montre bien, mais le problème, c'est, est-ce que ça dure? Ah oui, petit point sur la première expérimentation, il n'a pas été possible, pour des raisons malheureuses, de faire un post-test 2 mois plus tard pour savoir si les apprentissages s'étaient maintenus. Et là-dessus, il reste un doute, très fort, parce qu'on en connaît des choses qui se perdent dans les sables quand elles ne sont pas réactivées régulièrement. Hein, voilà, donc les résultats, c'est au bout du mois. Donc, ce n'est pas 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard. C'est un des problèmes permanents des travaux des expérimentalistes, c'est que dans leur mode de fonctionnement des crédits de recherche et des calendriers d'opérations, revenir un an après pour retrouver les mêmes enfants, pour voir s'il reste des traces des apprentissages l'année dernière, les suivis de cohorte, c'est extraordinairement coûteux et difficile à mettre en place. Et donc, du coup, les limites de validité des résultats, d'un point de vue pédagogique, sont quelquefois aussi là. Alors, Laurence Ruben compare, avec tous les étudiants qu'elle peut avoir, une modalité d'apprentissage séparée, orthographe classique, hein, dictée, apprentissage de mots, etc., et puis rédaction, et puis une modalité intégrée, et ça, ce sont des classes avec qui elle travaille. Alors, c'est un biais, parce que ce n'est pas n'importe quelle classe. D'une certaine manière, ce sont des classes de pédagogues qui se sont auto-sélectionnées parce qu'ils ont fait le choix conscient de penser que... Donc, le problème, c'est... La variable est fait maître. Mais elles ont un nombre de classes suffisant pour ce sont des enseignants qui apprennent alors les règles de l'orthographe grammaticale et de l'orthographe lexicale dans des situations de production d'écrit, avec des choix très clairs. Alors je vous donne pour l'exemple pour grammaticale, c'est un dispositif qui a été monté. Par exemple, l'accord non-adjectif, il va être monté dans des textes descriptifs. On fait faire des textes descriptifs, alors les petits poissons rouges, les fleurs jaunes et bleues, tout ce que vous voudrez, enfin bon. Et c'est sur ce matériau pertinent du point de vue sémantique qu'on va monter ça. On va faire les terminales des verbes « je » et « tu » dans une lettre qui va demander, une situation qui va demander d'écrire ce que tu veux, tu m'as écrit, il faut que tu répondes à des questions. On va faire les accords, le passé composé avec un récit d'expérience, j'ai mangé, bon, si on veut, bon, vous voyez comment on peut, en sélectionnant des situations entre guillemets de production socialement signifiante, avoir des entrées qui permettent de travailler des biais, enfin d'isoler des caractéristiques dominantes sur lesquelles va porter l'apprentissage et donc le rendre explicite. Alors, ils ont travaillé en deuxième primaire, c'est-à-dire en CE1, et ils ont fait expérimentation aussi en sixième primaire, ce qui correspond, puisque c'est école obligatoire, qui correspondrait au sixième, si vous voulez, chez nous. Et alors, je vous donne le résultat, parce que c'est trop tard, sans vous décrire tout simplement, la manière dont ils ont recueilli les résultats est intéressante, c'est qu'ils n'ont pas demandé aux enfants de produire un texte, mais de décrire quatre images, c'est-à-dire qu'ils ont pré-constitué le scénario pour qu'on ne se trouve pas dans une situation de charge d'énergie trop grande, où les enfants devraient à la fois inventer une histoire et la rédiger. C'est-à-dire que là, ils avaient simplement à mettre en mots une histoire qui était déjà en ordre et qu'ils avaient, pour les petits, verbalisé oralement ensemble. C'est-à-dire qu'ils avaient à récupérer les informations et à les écrire, et on regardait comment ils mettaient en œuvre les règles d'accord, et pareil pour les sixièmes primaires, mais là, ils se les débrouillaient tout seuls pour lire les images, qui étaient une histoire assez simple. Alors, le résultat, c'est que, quel que soit le type d'enseignement, dans les deux cas, quand on compare l'évolution entre deuxième primaire et sixième primaire, il y a une... ils ont redonné aux enfants les brouillons et ils ont demandé de s'auto-corriger. Donc, non seulement ils ont analysé les productions, mais ils ont analysé les capacités d'auto-correction des enfants après une discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire attention. Alors, on regarde une réduction des transformations orthographiques dans les brouillons pour des réductions qui vont porter sur le sémantique et le textuel. Pratiquement, quand les CE1 reprennent leur texte, ils regardent que les fautes d'orthographe. Ils en regardent à peu près un dixième de ce qu'ils ont. Bon. Mais en sixième, il y a changer les mots, mettre de la ponctuation, mettre des majuscules, c'est-à-dire prendre attention, prendre attention à des marques, ils ont des marques qui portent sur le sémantique ou les aspects textuels du texte. Et puis la deuxième chose, c'est que les questions de correction lexicale portant sur le texte considéré comme un mot à mot prennent recul par rapport à des points qui prennent en compte la grammaire, et je dirais l'unité texte comme bloc, donc le travail sur la ponctuation. Mais l'approche intégrée dans la situation, avec tous les biais possibles, est supérieure à l'approche séparée sur deux points. Pas pour tout le monde, hein. Supérieure pour la sixième, plus clairement que pour le CE, même si elle est quand même supérieure à l'approche séparée pour le CE. Mais l'écart est moindre que pour la sixième, où l'approche intégrée apparaît meilleure. Avec l'idée d'une explication qui est qu'on demande, on leur a appris à co-gérer les différentes tâches en situation de production, alors que les autres l'ont moins appris et que là, on est bon. Mais on peut expliquer ça, mais il faudrait aller voir plus près. Moi, je suis devenue aussi circonspecte que les cognitivistes sur la validité générale des conclusions. Dans ce cas-là, c'était ça, avec un problème aussi d'effet maître. On avait des maîtres qui savaient faire ça, puisque c'était auto-sélectionné pour s'engager dans ce type de pratique pédagogique, qui est peut-être pas, comme tel, imposable à la totalité des... J'en sais rien. Puis le deuxième point, et qui est encore plus important à mes yeux, mais qui n'est pas documenté par d'autres études, c'est que l'approche intégrée est plus favorable pour les élèves les plus faibles. Alors ça, si c'est vrai, j'ai besoin d'autres éléments d'information parce que c'est un point qui nous intéresse particulièrement sur les modalités de travail. Mais vous voyez que ces modalités de travail intégrées ne suppriment pas la question de l'enseignement explicite. Ça n'est pas un enseignement implicite, hein. C'est le point qu'il faudrait bien comprendre. C'est un enseignement intégré, mais qui, au moment où il est travaillé, demande une explicitation des règles. Reste non résolu, dit Laurence Ribben, etc., la très grande variabilité des résultats interindividuels est le fait aussi de leur relative instabilité, c'est-à-dire que d'un texte sur l'autre, le même enfant pourra faire des fautes à des choses sur lesquelles il n'en a pas fait, c'est-à-dire que la dimension de lourdeur de la tâche dans la gestion est extrêmement importante. Est-ce que j'ai le temps de faire une conclusion? Anne-Marie Chartier, pas Michel Fayolle. Vous êtes mort de fatigue? Vous me donnez 5 minutes. 5 minutes, alors, 5 minutes qui est un point de vue, je dirais, historique sur la manière dont la pédagogie et les traditions pédagogiques qui sont les procédurales, les manières de faire dans les classes, qui sont pourtant des choses extraordinairement résistantes, parce que dictée question, ça existe toujours. Depuis 1800, ça s'invente, ça met 25 ans à s'inventer entre 1830 et 1850, hein, ça demande du temps, mais ça y est, après, c'est un processus qui est stabilisé. Mais comment des procédures peuvent être très déstabilisées par des injonctions venant du monde de la science? Et là, c'est un point que j'adresse à vous autant qu'à nous, et qui pose une question sur les modalités de la transmission. Trop rapide ou trop difficile, je ne sais pas, non gérable dans le mode de fonctionnement de la classe, sur les outils, les mots qu'on emploie dans un enseignement explicite. Si les mots qu'on emploie pour un enseignement explicite sont des mots qui sont à un moment donné invalidés du point de vue de la conceptualisation scientifique, qu'est-ce qu'on fait ? Si à un moment donné, on ne peut plus parler de son et de lettres, qu'il faut parler de phonème et de graphème, bien oui, vous vous souvenez le moment où ça a été là, et qu'il faut entériner, je me souviens les textes de Hélène Huot jetant au panier toutes les méthodes de lecture des années pré-70 en disant que quand un livre de lecture dit qu'il y a un O dans pomme, alors qu'il y a un O, tout le monde l'entend. Problème. J'ai interrogé ainsi, dit oui, ben évidemment, mais ça n'a aucune importance, ça n'a jamais fait aucune erreur d'orthographe. N'empêche que le discrédit scientifique ou la délégitimation scientifique qu'un certain nombre de catégories savantes apportent à des procédures pédagogiques fait taire les enseignants qui continuent la procédure, mais sans plus avoir de mots pour la parler. Alors, en particulier sur la question des nomenclatures grammaticales, est-ce qu'il faut parler d'articles ou de déterminants ? Les adjectifs, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y en a des qualificatifs et des démonstratifs ? Non, pas du tout, c'est une horreur, comment on peut dire des choses pareilles. Est-ce que c'est groupe nominal, groupe verbal ? Est-ce que c'est le syntagme ? Mais bon, tous ces machins-là. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas ? La question de la légitimité des étiquettes. C'est pour ça que la discussion sur méthode globale, méthode syllabique de Karine était très intéressante, parce que c'est important qu'on intervienne aussi avec le langage, qui est le langage employé dans les écoles, pour parler, mais en sachant, quand on est entre professionnels, qu'est-ce qu'il y a dans le bocal à confiture, derrière l'étiquette, et qu'est-ce que la variation des étiquettes peut produire, puisque ce qui est très important et peut produire des erreurs graves, confondre les phonèmes et les sons, c'est très embêtant. Parce que, bon, les phonèmes ne codent pas tout, les R roulés de bourguignon, en français, c'est pas codé dans l'écriture, tout ce que vous voudrez, les accents du midi non plus, bon, le supra-segmentaire, tout ce qu'on voudra. Donc, c'est très important qu'on ait bien pris conscience de ça. Une fois qu'on a pris conscience de ça, peut-être qu'on peut parler quand même de son et de lettres, parce que pour les enfants, on s'en débrouillera, ça sera plus facile. Mais vous sentez très bien que, en permanence, on se trouve dans cette situation d'injonction, voilà, disqualifiante, qui pose une question du point de vue d'un problème qu'ils ont posé ce matin, qui pour moi est absolument fondamental. C'est, alors, en termes gombertiens, c'est épiméta, c'est-à-dire les choses que les enfants peuvent sentir, peuvent le maître aussi, que le maître peut faire sentir, sans pour autant l'explicité de manière, avec comme une règle de grammaire qu'on va copier dans le cahier de règles. Et moi, je vois bien que dans les pratiques de cette classe, entre le totalement implicite, qui fait que les enfants, lisant beaucoup de textes, finiront par voir que le EAU, c'est souvent en fin de mot, rarement au début, et quand on veut dire au revoir, il y a peu de chances que ce soit où ça commence par EAU, bon, par exemple. Encore en revanche, quand on veut dire lavabo, ben, peut-être que ça terminerait bien par EAU. Hein, ça serait bon, parce que c'est comme ça souvent, hein, bon. Ça, c'est totalement implicite. Et puis des choses que le maître attire l'attention. Tu te rappelles, c'était le cas de Karine. Et non, Karine ce matin, elle avait pas de cas. Bon, mais on peut, c'est toujours un que, voilà. Bon, mais vous savez, et là, c'est un des points des méthodes syllabiques extraordinairement importants, c'est que toutes les méthodes syllabiques qui s'invente dans les années 1880, commence par un mot vedette qui va être le mot normé. Le I de île, le me de, le P de plume, le U de usine, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ces méthodes qui se disent synthétiques, et qu'ils sont, produisent une mémorisation sur un mot entier, où le son est mis en place, et où on apprend à lire le mot, bien sûr. Comment ? globalement. Même dans les OLEA, même dans la méthode Boschet, en haut, il y a le I de hirondelle. Tenez-vous bien, le premier jour, c'est I, hirondelle. Carrément. Et c'est écrit hirondelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le sémantique, même dans les cas des méthodes, mais à une époque où, finalement, personne n'y retrouve à redire, c'est entre pédagogues que ça se traite. Mais le jour où les linguistes débarquent, évidemment, on a commis tous les péchés capitaux du monde. Et puis le deuxième point que je voudrais dire, qui me soucie le plus, on en parlait là, c'est que toutes ces considérations sur l'apprentissage, c'est pour ça que l'apprentissage de l'écriture est une chose si importante, hein, c'est parce qu'on ne traite pas, on n'a pas traité dans les exposés ce matin, mais ils ont fait des travaux là-dessus, l'apprentissage de la lecture comme concomitant de l'apprentissage de l'écriture. Or, moi, les enquêtes historiques que j'ai pu faire me montrent que, au niveau non pas de la France, mais européen et américain, les phénomènes se produisent tous au même moment, c'est-à-dire entre les années 1850 et les années 1880, c'est-à-dire avant notre belle école de Jules Ferry, qui profite, qui va engranger les bénéfices. C'est le moment où se met en place un enseignement simultané de la lecture et de l'écriture dans les toutes petites classes, grâce aux ardoises, aux craies, aux plumes métalliques inusables qu'il ne faut plus tailler, au papier qui diminue, c'est comme les ordinateurs, hein, le prix du papier est divisé par 10 entre 55 et 57 du fait du papier de cellulose. Donc ça y est, tous les enfants peuvent avoir des cahiers et on peut gâcher, alors qu'avant on ne pouvait pas. Et il va y avoir des effets en retour, en une génération, des apprentissages de l'écriture sur la lecture, puisque d'une certaine manière, c'est en faisant les lignes de syllabes écrite, copie de lettres, copie de syllabes, copie de mots réguliers, etc., qu'on va mettre en place le processus d'encodage de la syllabe. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que peuvent commencer à apparaître des méthodes globales. C'est-à-dire qu'en lecture, on va essayer de traiter le processus descendant du mot vers la syllabe, parce qu'on monte simultanément en écriture le processus de la lettre vers le mot. Mais un point essentiel que souligne bien Michel Fayol, un des points absolument nécessaires, c'est l'automatisation du geste graphique. C'est-à-dire que tant que le geste graphique demeure coûteux, qu'il occupe l'attention très forte des enfants, faut que je monte, faut que je descende, etc., le plein, le délié, le 1, la capacité de mémorisation de l'enfant est telle que quand il a fait un F, après il fait un A, il ne sait même plus que ça fait FA. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'enfants, la pratique intensive de la copie, qui va être la méthode essentielle d'apprentissage du lexique orthographique et pas la dictée des années qui vont jusque dans les années 1840 à peu près, n'est vérifiée que pour les enfants qui ont mis en place cette procédure automatisée, et on sait qu'elle pose énormément de questions aux enfants. Voilà, c'est la petite parenthèse historique.
Merci beaucoup.